Oui. Continue cette belle émission avec David Castello-Lopez qui nous raconte chaque jour l'origine d'une invention qui fait notre quotidien.
Et qui est utile aujourd'hui.
Très
si vous
utile.
Voulez acheter quelque chose, vous êtes obligé de passer entre les fourches caudines de la caissière.
Exactement, avec le code-barre.
Avec le code-barre. Oui, en gros, le code-barre, ça fonctionne avec deux choses. D'un côté, il y a des combinaisons de barres blanches et noires, certaines qui sont fines et d'autres qui sont épaisses. Et de l'autre, il y a un laser qui est capable de regarder ces barres et de dire immédiatement à quel chiffre elles correspondent. Quand le lecteur il a fini de dire ça, il émet un son assez caractéristique que je vous propose d'écouter. Voilà, on peut le réécouter peut-être nous. Voilà, vous voyez, c'est pas mal. Et il crache immédiatement un nombre à 12 chiffres qui correspond à une seule chose sur la Terre. Par exemple, un stylo, du pain, un débardeur en strass, etc. Alors, on pourrait dire on s'en fout, hein, y a beaucoup de gens qui le disent d'ailleurs, mais moi je trouve que non. Parce que les codes-barres, ça fait gagner à l'humanité quand même un temps précieux qu'on peut utiliser pour faire plein de trucs, comme par exemple passer plus de temps sur Instagram ou des choses comme ça. Et du coup, on se demande, mais qui a inventé le code-barre? Oui. En tout cas, moi je me demande ça. Avouez qu'on se demande ça quand même.
Moi, je me suis posé la question.
Et ben voilà, vous voyez. Et alors, pour avoir la réponse, moi, je suis allé à New York.
À New York, la ville debout.
Alors, je ne suis pas allé que pour ça, hein. j'ai visité aussi. Et en particulier, je suis allé voir la Statue de la Liberté qui m'a inspiré une petite chanson, hein, qui s'appelle « Je suis libre ». Ça dure quelques secondes. Est-ce que ça vous dit de l'écouter?
Moi, ça me dit toujours de l'écouter.
Très bien. Alors,
c'est que parfois, je vous écoute, même quand on n'est pas ensemble. Le week-end, je me dis, je me fais un petit David sur Internet. Enfin, un petit David.
Je me fais un petit David. Ah, ça fait plaisir. Ouais. Donc, je vous propose d'écouter « Je suis libre ». Voilà, on y va.
Je suis libre. Je donne.
Attendez.
Je donne. Je reçois. Je suis libre. Je donne. Je reçois. Les États-Unis.
Voilà, c'était un hymne à la liberté américaine.
Mais c'est magnifique.
On donne, on reçoit.
Mais c'est vous qui faites la composition musicale
bien sûr,
également.
Bien sûr,
vous
bien
avez
sûr.
Aussi ce don-là.
Oui, j'ai quelques dons. Voilà. Alors après avoir chanté « Je suis libre devant la Statue de la Liberté », je suis allé voir une dame qui s'appelle Suzanne Woodland et qui n'est pas n'importe qui, on va l'entendre. On va l'entendre parce qu'elle va se présenter et je traduis ce qu'elle dit par-dessus avec une voix ultra sensuelle. Vous allez voir, c'est très agréable.
Bonjour, je m'appelle Suzanne Woodland et je suis la fille de l'homme qui a inventé les codes-barres.
Vous voyez, sa voix, elle, était sensuelle. Il m'a semblé normal de prendre une voix sensuelle également. Alors, le papa de Suzanne Woodland, c'est un monsieur qui s'appelait Joseph Woodland. Joseph, il a fait des études, il est né en 1921, il a fait des études d'ingénieur. Et puis, un jour, il a entendu dire qu'un propriétaire de supermarché de sa région cherchait à gagner du temps pour classer ses produits. Et Joseph, il était un petit peu chaud, alors il s'est mis au travail pour trouver une idée. Et sa fille raconte la chose suivante. Elle raconte que Joseph, il s'est dit, il faut que j'arrive à inventer un code, quelque chose qui puisse fonctionner comme un code pour les produits. Or, le seul code qu'il connaissait, c'était le morse. Et un jour, Joseph, il était à la plage et il réfléchissait à son problème. Il s'est assis dans le sable et un peu mécaniquement, il a planté ses doigts dans le sable et il s'est dit, c'est fou là, les trous, là, ça ressemble vachement à du morse quand même. Il y a des points, il y a des espaces entre les points. Et puis, il a replanté ses doigts dans le sable et là, il a tiré ses doigts vers lui et les points sont devenus des barres verticales. Et paf, il avait son idée. Alors je dis paf, hein, mais ce paf, il a quand même pris 25 ans à mûrir, puisque là, on était à la fin des années 40. Et en fait, ce n'est que le 26 juin 1974, donc 25 ans plus tard, à 8h du matin, que le premier code-barre du monde tel qu'on le connaît a été scanné. Ça s'est passé dans une petite ville de l'Ohio qui s'appelle Troy. Alors moi, je suis tellement fétichiste hein, de l'histoire des objets que je suis allé à Troy pour filmer C'était loin de New York. Hein, c'est près de Cincinnati. J'ai pris l'avion, si vous voulez, pour aller dans cette ville qui n'a pas vraiment d'intérieur. Enfin, c'est très sympa, mais enfin, on n'y va pas à Troy.
Vous n'avez pas composé de chansons.
Non, je ne suis pas composé de chansons.
On n'y va pas si on n'a pas une raison d'y aller.
Exactement,
en fait.
À Troy. Et je suis allé donc à Troy. Et il y avait ce supermarché, le supermarché dans lequel le code-barre, le premier code-barre, existe encore.
Et
il y a une petite plaque à l'intérieur. Qui rappelle le moment historique et qui le valide même. Et j'ai même rencontré là-bas un caissier super sympa qui a accepté de rejouer la scène avec moi. Le premier objet qui a été scanné en 1974, c'était un paquet de chewing-gum Wrigley. Alors j'ai pris un paquet de chewing-gum Wrigley et je l'ai acheté. Et j'ai ressenti comme un petit frisson historique hyper agréable. Alors depuis, Joseph Woodland, il est mort. à 91 ans, mais en 2012. Mais son invention, elle, elle continue de cartonner, puisqu'on estime que chaque jour dans le monde, il y a 10 milliards de codes-barres.
Il l'avait bien breveté, c'est toujours mon angoisse, hein, qu'il soit mort pauvre.
Il l'a breveté, il y a d'autres...
C'est terrible de mourir, c'est terrible.
Non, non, il l'a breveté, il a eu son brevet. Il y a eu d'autres gens qui se sont greffés pour améliorer son invention et qui eux aussi ont touché de l'argent, mais en tout cas, il n'est pas mort dans l'anonymat ni dans la pauvreté. Alors, il est quand même possible que les jours du code-barre soient un petit peu comptés aujourd'hui, parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu mieux que le code-barre. Il y a notamment le QR code dont on s'est moqué pendant longtemps.
C'est un code-barre amélioré.
Oui, bah, amélioré, mais oui, mais qui marche mieux. Il y a plus de combinaisons. Ah. Et vous souvenez, quand je me souviens du moment où on se moquait du code-barre. Ça marchera. Qui a scanné un code-barre, un QR code dans sa vie. Et en fait, le Covid a rendu le QR code cool parce que oui, il est sur les menus des restaurants maintenant. Hein, on peut l'avoir sur son téléphone sans avoir à toucher des trucs que d'autres gens vont toucher. Moi, je garde quand même une tendresse pour le code barre, en particulier à cause du bip. Je trouve que c'est un des bips les plus purs du monde. Je propose qu'on l'écoute une nouvelle fois pour finir. Avouez quand même que c'est très très beau.
On crée une chanson autour du bip.
Je vais voir ce que je peux faire.
Le problème, c'est quand le code barre ne marche pas et que la dame est obligée, ou le monsieur est obligé de taper tous les numéros qui sont.
Elle a tout le monde dans la queue derrière. Ah,
moi, j'ai maudit le code barre.
Mais c'est l'histoire des bouteilles de vin.
Parce que je ne pouvais plus changer les prix sur les bouteilles de vin, parce qu'avec les petites étiquettes en prix, on les enlevait et puis on mettait un 14,90 sur une bouteille à 150. Avec le code barre, on ne pouvait plus.
Mais oui. Et alors je sais pas qui
ça
concerne
a dû faire
ce
chuter
on.
De manière vertigineuse le vol dans les magasins.
Mais oui, c'est vrai quoi, c'est vrai.
Et bien, en tout cas, merci David et on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et évidemment sur le site d'Europe 1.